بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جزاك الله. Mes chers frères en islam, nous allons ce soir, inshallah, clôturer le chapitre concernant As-Sidq, le fait d'être véridique. Et cette longue histoire qu'on avait, subhanallah, commencé à traiter il y a plusieurs mois, et qu'Allah Azza wa Jalla nous donne la possibilité donc de conclure l'histoire de Ka'b ibn Malik radiallahu anhu, ainsi que deux autres sahaba ridwanullahi alayhim ajma'in, qui n'avaient pas pris part à la campagne de Tabouk. On avait expliqué que c'était une campagne un peu spéciale avec un voyage extrêmement long. Le voyage vers Tabouk, c'était le voyage le plus long que les Sahaba n'avaient jamais effectué dans une période extrêmement difficile en plein été où il y avait la saison propice pour la récolte des dattes, ce qui voulait dire que c'était la période pour que les Sahaba travaillaient. C'était à ce moment qu'ils devaient récolter les dattes pour avoir leur subsistance pour toute l'année. Et à ce moment crucial, le prophète Ali salat wa salam va demander aux sahaba de se mobiliser parce que l'armée romaine a préparé, donc l'armée romaine est prête à attaquer les musulmans. Et donc les musulmans vont aller au front dans un endroit qui s'appelle Tabouk pour accueillir les Romains. Et donc le prophète Ali salat wa salam, par cette décision, il concrétise un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala qui va être en même temps une épreuve extrêmement difficile pour les musulmans. Et vous voyez que à l'issue de cette épreuve, on avait expliqué, il n'y a même pas eu de combat parce que les Romains en finalité ne sont pas venus au rendez-vous, ils ne sont pas venus à Tabouk, donc il n'y a pas eu combat. Mais malgré ça, chaque personne qui a pris part à l'armée des musulmans qui ont fait le déplacement pour défendre la ville de Madina Munawwara, ces gens-là, malgré le fait qu'il n'y a pas eu combat, Allah Ta'ala leur a accordé les récompenses de celui qui est sorti dans le chemin d'Allah pour défendre son dîn. Tandis que il y avait à Madina une certaine catégorie de personnes qu'on appelle les hypocrites, les munafiqines, qui étaient attachés au bien de ce monde et qui faisaient semblant d'être musulmans, mais pour avoir les intérêts que tous les musulmans ont. Mais ces gens-là n'avaient pas le vrai iman de leur cœur. Alors ces gens-là, ils n'ont pas pris part, ils n'ont pas participé à la campagne, ils sont restés à Madina. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu, ils se sont empressés d'aller accueillir le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la masjid Nabawi et ils ont présenté de fausses excuses au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète d'Allah n'a pas eu l'ordre de la part d'Allah de juger les gens en fonction de ce qu'il y a dans leur cœur, parce que dans les cœurs, ce qu'il y a dans les cœurs, c'est Allah seul qui le sait. Et donc le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam a accepté leur parole. Le prophète alayhi salatu wa salam a accepté leurs excuses, mais par la suite on va voir qu'Allah Ta'ala a révélé des versets concernant ces gens qui dit que même si le prophète a accepté leurs excuses, mais Allah ne les a pas acceptées, parce que Allah, lui, il savait ce qu'il y avait réellement de leur cœur. Et puis il y avait Ka'b ibn Malik radiallahu anhu et deux autres sahaba qui eux avaient, yani, ils avaient repoussé le départ. Ils se sont dit que bon, on ira dans quelques temps. Et puis ils ont eu la nouvelle que tout compte fait l'armée des musulmans a déjà pris le chemin du retour. Et là ils étaient stupéfaits, c'était trop tard pour joindre l'armée du prophète alayhi salatu wassalam. Et donc là il y a un choix crucial à faire. Ils voient que les hypocrites ont été voir le prophète sallallahu alayhi wasallam, ils ont présenté de fausses excuses, ils ont menti. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté leurs excuses. Ils s'en sont bien sortis apparemment, en apparence. Donc ils se disent que qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va dire des paroles qui ne sont pas vraies pour être sauvés, ou alors on dit la vérité? Et parmi ces personnes-là, il y a Ka'b ibn Malik radiallahu anhu qui a été mal conseillé par certaines personnes de sa tribu qui lui ont dit: oh Ka'b, toi tu es quelqu'un d'important, tu as participé à la bataille de Badr, tu n'es pas n'importe qui. Donc va dire pour Sam que tu avais une excuse valable et le prophète va te croire, comme tous ces hypocrites, comme toutes ces autres personnes. Et Ka'b, à un moment donné, il allait le faire, mais Allah Azza wa Jal lui a donné la lumière de son cœur. Allah Ta'ala a guidé ses pas. Et comme on avait expliqué la dernière fois, quand quelqu'un est aimé par Allah, Allah ne le laisse pas endiomer tomber, Allah ne le laisse pas sombrer dans le péché et dans les erreurs tentées par Shaytan. Retenons bien cette leçon: quand Allah Ta'ala aime un serviteur, Allah Ta'ala ne le laisse pas tomber dans les pièges de Shaytan. Lorsqu'il y a un choix à faire, Allah Ta'ala guide son cœur vers ce qui est mieux. Alors que ces hypocrites, ils ont menti. Et ça prouve également que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était un être humain. C'était un homme. Si quelqu'un essayait de le persuader de quelque chose, si ça paraissait comme la vérité, le prophète avait toujours de bonnes pensées pour husnudhan bil muslim, pour la personne qui était en face. Le prophète n'avait pas de mauvaises pensées, toujours comme nous, par exemple, Allah musta'an, on a souvent l'esprit tordu. Quand on voit quelqu'un qui vient faire salam, on dit, ah, lui, il vient me faire salam, il veut peut-être quelque chose, il a besoin d'argent, il a besoin de quelque chose, lui, c'est un hypocrite, qu'est-ce qu'il veut? Et, yani, Allah musta'an, il y a shaitan qui travaille, il travaille nos esprits, et souvent, le prophète dit, iyyakum adh-dhann, fa inna adh-dhann akdhabu al-hadith. Arrêtez, arrêtez d'avoir des mauvaises pensées. Parce que ça, c'est le pire des mensonges. Quand shaitan, il vient, il insuffle des mauvaises pensées dans nos cœurs, ça, c'est shaitan, ça, qui fait en sorte, il essaie de semer la zizanie entre les cœurs. Fait en sorte que les gens se détestent mutuellement. Quand on voit quelqu'un, on a toujours des mauvaises pensées. C'est rare qu'il y ait des gens, des musulmans qui ont ce akhlaq, que même, quand le prophète m'explique que si, en ce sens, si un de vos frères, un musulman fait une erreur, on doit essayer de trouver le maximum d'excuses pour lui. Husnudhanni bil muslim. On a vu quelqu'un faire quelque chose qui n'est pas bien. Il dit que peut-être qu'il ne savait pas. Il est nouveau, il vient d'arriver dans le quartier. Il ne sait pas que ça, c'est pas bien. Yani, toujours essayer de trouver une bonne raison pour excuser notre prochain. C'est-à-dire, c'est de la gentillesse, c'est de la bonté. Mais ça, c'est des qualités qui ont disparu, ça, Allah Moustan. Avec tout, subhanallah, on vit un rythme tellement, un rythme effréné, qui fait que chaque personne, chaque être humain, avant on disait ceux qui n'ont pas la foi, mais maintenant tout le monde est comme ça. La seule chose qui nous est importante, c'est quoi? C'est combien je vais gagner à la fin du mois. C'est la seule chose, on est omnibulé, on est, subhanallah, presque obsédé par notre compte en banque et par notre garde-manger. Qu'est-ce que je vais avoir à la fin du mois? Combien je vais manger? Est-ce que je vais être heureux? Le reste, ça ne nous intéresse pas. Moi, mon prochain, mon ami, mon frère en islam, il a des difficultés, il a tel problème. Est-ce que je peux faire quelque chose pour lui? On n'y réfléchit même pas. Il y a une personne qui m'avait parlé de ça il y a quelque temps. Oui, un responsable d'association, quelqu'un qui, machallah, un poste important de la communauté musulmane et qui aide les gens. Il est en train de m'expliquer qu'il y a une personne qui est venue de Madagascar. Quelqu'un qui est venu de Madagascar et il est venu subir une opération à La Réunion. Une petite parenthèse, aucun rapport avec le sujet, mais aucun rapport avec le hadith, mais en rapport avec le sujet. Pour montrer la bonté, la gentillesse qui habitait le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on va voir comment les sahaba, ils ont été voir Ka'b ibn Malik quand il y a eu la bonne nouvelle qu'Allah lui a accordé son pardon. Tout le monde était parti le voir pour lui annoncer la bonne nouvelle. C'est ce qu'on appelle idkhal as-sururi fi qalb al-mu'min. Essayer de faire en sorte que mon prochain sourie. Dire une parole ou agir de la sorte que mon prochain éprouve de la joie et du contentement. Ça, c'est extrêmement important. Et ça, c'était la qualité des sahaba, la qualité que le musulman doit avoir. Je dis malheureusement, on est à l'opposé. On est peut-être bien, on est peut-être réglo dans les actes d'adoration, on se prosterne comme il faut, alhamdulillah, mais dans les relations avec les gens, on est toujours froid, on est toujours distant. Quand quelqu'un se rapproche trop, oh là, hey yo, il veut quoi là? C'est quoi son problème? Toujours les mauvaises pensées de shaitan. Lui, c'est quelqu'un de dangereux. Faut pas, il vient me faire salam tout le temps, et un jour il va dire je viens manger chez toi, et puis un jour il va me dire prête-moi de l'argent, et puis un jour il va me dire prête-moi ta voiture, donc vaut mieux arrêter le faire salam. Quand il vient là, je passe par l'autre porte. Ça, c'est une réalité. C'est une caricature un petit peu, mais malheureusement, nous devenons méfiants les uns envers les autres. Et donc, cette personne responsable d'association, il m'explique que il y a une personne, un musulman qui vient de Madagascar, qui arrive à La Réunion, avec son enfant qui devait subir une opération. Un hôpital ici, Saint-Clotilde ou Belle-Pierre, peu importe. L'opération devait coûter 3 500 €. Et la personne avait préparé la somme. Imagine pour quelqu'un à Madagascar, 3 500 €, subhanallah, c'est peut-être tout ce qu'une personne peut cumuler en un an. Si c'est pas plus encore. C'est-à-dire, la personne n'est pas venue là, les mains vides, je fais pitié, donnez-moi l'argent. Non, il a amené l'argent. Il a fait le voyage en plus, avec son enfant. Arrivé ici, je sais pas si honnête, malhonnête, les médecins lui disent que oui, bon, il y a des changements, les coûts, je sais pas si la crise ou autre chose, ou alors il y a un changement dans le diagnostic, hein, ça je ne le prononce pas. Il dit que maintenant l'opération coûte 7 000 €. C'est pas 3 500, c'est exactement le double. Papier à l'appui, bien sûr. Non, le médecin, il donne le devis, enfin, le devis, ça s'appelle pas devis, je sais pas comment ça s'appelle. Il dit exactement combien ça va coûter. Et là, une parenthèse de la parenthèse de la parenthèse. Vous voyez quel ni'ama on a à La Réunion. Hein, vous allez, Allah nous protège, hein, personne n'aura pas besoin de passer sur le billard. Mais si quelqu'un a besoin de soins, quelqu'un a besoin d'aller à l'hôpital, une opération, alhamdoulilah, c'est gratuit. Ça, c'est un grand ni'amat, ça. que quelqu'un peut avoir accès aux soins sans qu'il n'ait à débourser de l'argent. Dans certains pays, c'est pas ça. C'est pas possible. Parfois même dans des pays musulmans, pour avoir accès aux soins, si vous n'avez pas les moyens pour aller dans un hôpital privé, vous allez en public, c'est de la charcuterie. Ils font n'importe quoi. Il y a des gens qui ne sont pas diplômés ou alors qui viennent des écoles qui ne sont pas trop sérieux et tout. Alhamdulillah, à La Réunion, hein, on a un grand ni'ma. On a un grand bienfait de la part d'Allah. Ça, il faut être reconnaissant. C'est pour ça aussi qu'on dit que quand on nous donne, ben, il faut être reconnaissant. Bien sûr, en tant que bon musulman, bon citoyen, nous respectons les règles, nous respectons la loi, etc., etc. Et donc, on voit, quatrième parenthèse, on voit ce qui s'est passé il y a 4 semaines, 5 semaines. Ah, si, pas loin de chez vous. Pour monter, faire la salat, j'avais peur. J'avais peur de monter sur la Tunfaj. C'était comme dans, encore le jeu bataille là, sur. C'était comme dans, hein? Comment? Non, il y a un jeu là, tous les gens, ils aiment bien jouer là avec les enfants de 7 ans. Hein? Bref, non, on n'a pas les mêmes références. Bref, j'ai oublié le nom. Alhamdulillah, on oublie ce qui est moins important et on garde ce qui est important. Et les enfants de 7 ans, ils jouent ça, ils ont un bazooka, ils ont un lance-flamme, ils tuent tout le monde. Et après, vous avez près des mosquées. C'est... Voilà, bref, donc on revient. Oui, pour aller sur Salatul Fajr, c'était comme dans un champ de bataille. Il fallait passer entre les poubelles brûlées, entre les voitures calcinées, etc. C'est Wallah, c'est un des jeunes. Certes, ils n'ont pas de situation, mais ils détruisent. Mais quand on détruit, qu'est-ce qu'on apporte? Au contraire, quand on détruit, il faut retrouver de l'argent pour construire, etc. Alors que, subhanallah, les gens, ils crient, je comprends, il y a la crise. On a du mal à terminer la fin du mois. Mais jetez un coup d'œil à gauche, à l'ouest. Regardez à Mayotte. Ou à l'est, ou au nord, je sais pas, géographie pas trop fort. Regardez nos frères et soeurs à Mayotte. Regardez nos frères et soeurs à Madagascar, nos frères et soeurs aux îles Comores. Ils rêveraient d'avoir les revenus que nous avons. Avec les facilités, alhamdoulilah, pour l'appartement. Il y a des familles qui vivent à l'extérieur sous des bâches ou des bidonvilles que s'il en existait à La Réunion, immédiatement la mairie aurait fait raser pour construire des logements qui sont propres. Nous avons des ni'ma. Mais malheureusement, quand l'être humain, il a l'habitude de regarder celui qui est plus haut, il oublie. Et ça, subhanallah, hein, si ce hadith-là, les politiciens, ils l'avaient, ils en auraient fait l'objectif principal de leur campagne électorale. Ça nous aurait laissé un petit peu de tranquillité par rapport à d'autres choses, bien sûr. Mais que le prophète dit que quand quelqu'un a une difficulté, il doit regarder celui qui est plus éprouvé que lui. Quand quelqu'un, par exemple, a des difficultés financières, qu'il doit regarder celui qui a plus de difficultés et non pas regarder celui qui a plus d'aisance. Ça, c'est ce qu'on appelle être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on revient à notre histoire de l'opération. Il me dit que certaines personnes n'étaient pas trop contentes. Mais pourquoi où est-ce un malgache? Ici, réunionnais, tout le monde n'a pas l'argent, ça aide un monde sur Madagascar et tout. Il a dit que oui, mais ça, c'est un musulman. Et la personne qui dit, c'est pas un savant. C'est pas parmi les élites qui prêchent la religion. C'est des gens, mashallah, qui ont un travail, qui s'habillent même pas comme moi, hein, en chemise, pantalon et tout. Mais subhanallah, ils ont bien compris que le din s'est instauré par le biais de la muhabba, l'entente. Comment est-ce que la première ville de l'islam s'est construite, si ce n'est par le mu'ahat? Et ce mu'ahat là, c'était quoi? Toi, tu viens de Mecca, tu n'as pas d'argent, tu as tout laissé là-bas pour ton dîn. Moi, je suis de Madina, j'ai des biens, j'ai mon terrain, j'ai mon champ, j'ai de l'argent, tu es mon frère. Tu viens, tu habites chez moi, tu manges avec moi, je te donne du travail, je te paie. Quand tu auras les moyens, alhamdoulilah, tu prends ton indépendance et tu achètes ta maison et tu vis. C'est comme ça que cette société s'est construite. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne les recettes du bonheur pour rentrer au Jannah bisalam, parmi les choses qu'il dit, c'est quoi? Donner à manger aux gens. Ça, c'est les actes, les actions fondateurs de notre dîn. Qu'est-ce qu'il a dit encore? Afshu salama baynakum. Faites le salam entre vous. Afshu salama baynakum. On dit que ça, c'est pas grand-chose, mais ça, c'est à la base. La première relation, le premier pas que je fais envers mon prochain, que je le connais ou non, qu'il soit de ma couleur, de ma race ou d'une race différente, je fais le salam, c'est le premier lien. Ça prouve que toi, tu es mon frère en islam. Parce que assalamu, que la paix d'Allah soit sur toi, je ne le dis pas à quelqu'un qui n'a pas la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah de son cœur. Je le dis uniquement à quelqu'un qui a ça de son cœur. Et quand quelqu'un a ça de son cœur, ça veut dire qu'il est mon frère, innam al-mu'minuna. Il croit, oui, mais c'est très facile de dire ça de nos jours. Où est l'application? Justement, c'est la question qu'on se pose. Nous sommes tous conscients, on connaît le verset, innam al-mu'minuna, mais dans la mise en pratique, malheureusement, il y a un gros décalage. Et donc, cette personne me dit, et j'étais fier, ça m'a fait, mashallah, chaud au cœur d'entendre qu'il y a encore des gens comme ça à notre époque. Il s'est dit que c'est une priorité. Un frère en islam qui vient, même s'il vient de Madagascar, il n'est pas de notre communauté, il n'est pas de notre île, d'accord? Mais il a besoin, c'est pas, il ne va pas se refaire le nez là, c'est pas de la chirurgie esthétique, c'est question de vie ou de mort. Il a besoin de cet argent et on l'a aidé. On a contacté les membres de l'association et on lui a apporté de l'aide et la personne, alhamdoulilah, a pu subir son opération qui s'est, j'espère, bien passée. Ça, c'est extrêmement important. La bonté. La gentillesse, cette gentillesse-là, elle habitait le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le cœur des sahaba, ridwanullahi alayhim ajma'in. Donc, on revient à notre histoire, lui, il n'a pas écouté ce que les gens ont dit, hein. Allah a guidé son cœur et il a dit la vérité au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète a dit que, amma haoula, ces gens-là, faqad sadaq, ils ont dit la vérité. Et déjà, c'était un honneur pour eux de recevoir l'attestation de véracité de la part du Prophète qui dit qu'eux, ils sont véridiques. Et donc, le Prophète a dit que, attendez, Allah Ta'ala va prendre sa décision. Allah va vous juger. Ça montre également que ce dîn-là, c'est le dîn d'Allah. Le Prophète attendait quelle révélation Allah lui donnait pour juger ces personnes. Et là, le prophète a dit à ces gens que, a dit aux sahaba qu'Allah a décidé que personne n'adresse plus la parole à ces gens jusqu'à ce qu'Allah décide de leur accorder le pardon. Et pendant 40 jours, ils sont restés ainsi. Ka'b ibn Malik continue à fréquenter la masjid avec espoir de voir le prophète répondre à ses salams. Mais le prophète ne répondait pas. Même sa propre famille, son propre cousin, ne répondait pas à son salam. Et ça l'a touché profondément. Mais ça nous montre également que lorsque le prophète a dit aux sahaba, faites comme ça, agissez de la sorte, les sahaba, ils obéissaient au pied et à la lettre aux ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même si c'était dur pour eux. Mais ils savaient qu'il y avait une sagesse. Ils savaient qu'il y avait un bien réel dans cette obéissance. Et donc, au bout du 40e jour, on peut se dire qu'au bout de 40 jours, Allah va envoyer son aide. Non, l'épreuve devient plus dure. Au bout du 40e jour, le prophète ordonne à ses trois sahaba de se séparer de leurs épouses. Épreuve encore plus difficile. Et parmi ces trois, il y en a un qui a demandé au prophète d'Allah, j'ai besoin que ma femme reste auprès de moi pour m'aider, pour faire son khidma. Et le prophète lui a donné l'autorisation, mais il ne devait pas avoir de rapport intime avec son épouse. Au bout du 50e jour, et là on est arrivé la dernière fois, au bout du 50e jour, là Ka'b ibn Malik, il n'en pouvait plus. Il ne venait plus à la masjid, il ne fréquentait plus la société, il faisait la salat chez lui. Il dit qu'après avoir pris la salat al-fajr, et pendant ces moments difficiles, ces sahaba-là, ils s'en remettaient à Allah uniquement. Et ils étaient les hommes les plus malheureux au monde. Pourquoi? Comme on l'a dit la dernière fois, parce que Allah et son prophète étaient mécontents d'eux. On n'avait pas pris leur argent, hein. Ils n'étaient pas tombés malades. Ils n'étaient pas malheureux parce que le docteur avait annoncé qu'ils avaient un cancer. Ou alors que la banque avait dit que voilà, vous devez tant d'argent et qu'on va vous expulser, votre maison va être hypothéquée, on va reprendre votre voiture. Non, c'est pas ça qui les attristait, non. Ils étaient tristes uniquement parce que Allah et son prophète étaient mécontents d'eux. Et pour un mu'min, c'est la pire des choses que de savoir que mon Seigneur, mon Créateur, n'est pas satisfait de moi. Et au bout du 50e jour, donc, il faisait la salat al-fajr, il entend quelqu'un, un cavalier qui arrive, qui annonce la bonne nouvelle. Ya Ka'b ibn Malik, abshir, au Ka'b, on t'annonce la bonne nouvelle. Et immédiatement, Ka'b a compris, il est parti à la masjid, et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a accueilli en souriant, et le prophète alayhi salatu wa sallam lui a dit une parole magnifique. Abshir, bi khayri yawmin marra alayka mudh waladatka ummuk, au Ka'b, je t'annonce cette bonne nouvelle, que c'est aujourd'hui, c'est le plus beau jour que tu vas connaître, le plus beau jour que tu as connu depuis le jour où ta maman t'a donné naissance. Ka'b ibn Malik reçoit cette bonne nouvelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il explique que tous les sahaba sont venus un par un lui faire salam, mulakat, comme on dit ici, mulakat, c'est-à-dire hein, mu'anaka, le féliciter par rapport à cette bonne nouvelle qu'Allah ta'ala leur a accordé le pardon. Et les ulama, rahimahullah, il y a beaucoup de leçons à retenir. On va résumer parmi les leçons qu'ils retiennent de cette histoire. Ils disent que regardez premièrement comment le prophète alayhi salatu wassalam avait de la bonté pour les sahabes. Lorsque ce sahaba dit qu'au prophète d'Allah, je ne sais pas c'est quoi ses conditions, mais dit par rapport hein, à sa situation, j'ai besoin de mon épouse qui doit être à mon service, qui était au khidma de cette personne. Le prophète alayhi salatu wassalam lui a accordé l'autorisation. Et là le prophète sallam voulait au maximum faciliter la vie du musulman. Il ne voulait rien faire qui rendait la vie d'un musulman compliquée. Il ne voulait jamais faire quelque chose qui rendait la vie d'un mu'min difficile. La deuxième leçon qu'on retient, c'est comment les sahaba ridwanullahi alayhim ajma'in, ils se sont empressés d'aller voir Ka'ab ibn Malik pour lui annoncer la bonne nouvelle qu'Allah Ta'ala t'a accordé le pardon. Ce n'était pas un sahaba qui lui annonçait, c'était ils se succédaient. Chacun voulait arriver en premier pour lui annoncer la bonne nouvelle. Et ça montre cette gentillesse, cette bonté qu'il y avait dans le cœur des sahaba. Ils savaient que cette bonne nouvelle allait remplir le cœur de leurs frères en islam de contentement et de joie. Et ils voulaient être acteurs. Que grâce à moi, mon frère va éprouver du contentement, de la satisfaction. Et les ulama disent que ça, c'est extrêmement important. Si par exemple quelqu'un a une nouvelle à annoncer à son prochain qui peut mettre un peu de joie dans son cœur, il doit le faire. Même si les ulama disent que par exemple on a vu quelqu'un en rêve et dans une situation positive. Bon, on doit lui dire que je t'ai vu en rêve, ou alors ton père est décédé, mais j'ai vu ton père en rêve, il était, en vérité bien sûr, il était dans un endroit, il était heureux, il disait de bonnes choses. Et tout ce qui peut rendre notre prochain heureux, content, on doit essayer de le faire. Et par opposition, si on a des choses qui chagrinent une personne, il faut éviter. Il faut éviter de casser le cœur d'un musulman. Vous savez, la valeur du musulman auprès d'Allah, c'est supérieur à la valeur de la Kaaba. Parce que la Kaaba, c'est symbolique, mais ça reste de la pierre. Tandis que le cœur d'un musulman, c'est un cœur vivant, et cela a plus d'importance pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Et donc, par opposition, si on a vu quelqu'un, je sais pas moi, ça c'est l'exemple qu'on a donné, on a fait un cauchemar, on a vu quelqu'un qui avait tel problème, il ne faut pas aller raconter ça à la personne. D'accord ? Même dans la manière d'aborder les gens, de parler, d'encourager les gens, il faut être positif. Par exemple, on va rendre visite à un malade. On essaie de lui dire des paroles encourageantes. D'accord, quelqu'un à l'hôpital dit que on essaie de lui rappeler quelles sont les récompenses qu'Allah accorde à une personne qui est éprouvée. Comme on avait expliqué il y a quelques temps sur le sabre, etc., etc. On dit qu'Allah Ta'ala va t'accorder telle chose, va augmenter ton degré. Allah est en train de pardonner tes péchés. Allah Ta'ala est en train de t'accorder le paradis, t'accorder énormément de bonnes actions, etc., etc. Quand quelqu'un est éprouvé et qui fait preuve de sabre, il aura telle chose, il rencontrera Allah sans qu'il ait de péché dans son livret de compte. C'est-à-dire trouver des paroles qui sont encourageantes. Et non pas dire des choses qui sont négatives. Par exemple, on va voir quelqu'un qui m'a dit, oui, mais tu sais, normalement, quand quelqu'un est malade, c'est que la personne fait trop de péché, ben, il faut y punir Ali. Mais comment la personne peut soit ça dit, en plus je suis alité, en plus j'ai tel problème, il vient me dire que ça c'est azab d'Allah, ben, je vais où, moi? D'accord? Trouver les mots pour encourager notre prochain. Il y avait un ami africain, du Sénégal, on a fait des études ensemble, il avait dit une parole magnifique, en arabe, mais bon, en français, ça n'a pas le même charme. Il m'a dit, un professeur qui a enseigné hadith à propos de ce sujet. Il a dit que oui, il était avec un groupe de personnes une fois, ils ont été rendre visite à un malade qui avait un problème de santé particulier. Il m'a dit que dans le groupe, il y avait quelqu'un qui était extrêmement maladroit. Extrêmement maladroit. Il a voulu parler à la personne, dire quelque chose, mais il a dit quelque chose qui a cassé le moral de la personne pour faire comprendre qu'est-ce qu'il faut pas dire à un malade. Il a dit que, je vous dis en français, il m'a dit que oui, il est peut-être voir la personne, il dit que oui, tu as telle maladie. J'ai un ami qui avait telle maladie, mais il en est mort, ça c'est terrible ça. Pour lui, mais c'était la vérité, c'était une expérience, mais il était maladroit, il dit une parole qui va casser la personne qui est en face. Alors que non, au contraire, il faut trouver des paroles, il faut trouver des propos qui vont mettre de la joie dans son cœur. Il faut le soutenir. Quelqu'un a perdu un proche, d'accord ? Il y a deux façons d'aborder. Il y a des gens qui vont dire que oui, mais de toute façon, tout le monde va mourir. Il ne faut pas te mettre dans ces états. La mort, c'est quoi? Tu n'as pas la foi, tu n'as pas un iman, tu n'as pas yakin, ou ne crois pas au destin. Mais non! Ce que vous dites, c'est une réalité. Oui, il n'y a rien à dire. Mais ces paroles-là ne sont pas munasib. Ce ne sont pas les paroles qu'il faut pour encourager la personne. Dites plutôt que nous appartenons à Allah. C'est Allah qui nous a donné la vie. Et Allah le reprend. Mais quand un mu'min meurt, il retourne auprès de son Seigneur. Toutes les actions qu'il a pu faire durant toute sa vie, c'est maintenant qu'il va voir les récompenses. C'est maintenant qu'il va voir le résultat. Quand un musulman meurt et qu'il avait l'obéissance d'Allah dans sa vie, il est content de retourner auprès d'Allah. Les anges l'accueillent, l'annoncent la bonne nouvelle, etc. Ça, ce sont des paroles qu'on doit dire à quelqu'un qui a perdu un proche ou ce qu'on a dit tout à l'heure pour quelqu'un qui est malade, qui est éprouvé. Donc ça, c'était une habitude des sahaba, toujours dire de bonnes paroles, faire contenter le cœur de leur prochain. La troisième chose, parmi les leçons qu'on peut retenir, on pourrait dire que c'est une sunna, c'était une habitude des arabes avant l'islam que le prophète n'a pas interdit, ça veut dire donc le prophète a toléré. C'est quand quelqu'un vous annonce la bonne nouvelle. Ka'ab dit que quand le cavalier lui a annoncé la bonne nouvelle, alors qu'il était, on n'avait pas dit ça je crois, dans une montagne qui s'appelait Jabal al-Sil'a. Et cette montagne, on va dire que cette montagne elle est à 800 mètres ou alors 1 km de la Masjid Nabawi à notre époque. Une fois, on était au Hajj, on était dans un hôtel, enfin, on n'avait pas d'hôtel, donc on n'était pas dans un endroit. Subhanallah, on est resté 10 jours près de cette montagne. Et c'était émouvant quand même. Le matin, vous vous levez, vous voyez cette montagne, vous dites que subhanallah, c'est de cette montagne-là que le cavalier est arrivé et il a annoncé la bonne nouvelle à Ka'b ibn Malik, qu'Allah Ta'ala t'a accordé son pardon. C'est des endroits qui sont historiques. Donc, qu'est-ce qu'on disait là? Et oui, et donc quand on lui a annoncé la bonne nouvelle, Ka'b a donné tout ce qu'il possédait comme bien à la personne qui était en face. D'accord? Et donc, c'était une habitude que le prophète a accepté, que quand quelqu'un vous annonce une bonne nouvelle, quand quelqu'un il vient vous dit que voilà, je t'annonce cette bonne nouvelle, on va dire qu'il est correct de lui, il est bien de lui donner un présent. Si on a là la possibilité, si quelqu'un a quelque chose à donner, tiens, ça c'est un cadeau, parce que la personne vous a annoncé une bonne nouvelle, il a mis la joie dans votre cœur. Également, lorsque le prophète Ali, salat wa salam, et regardez, ça c'est extrêmement important, il dit à Ka'b que c'est le plus beau jour que tu as connu de ta vie. Le ulama dit, pourquoi le plus beau jour? Premièrement, parce qu'Allah Ta'ala leur a accordé son pardon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est maintenant content et satisfait d'eux. Et également, le fait qu'ils aient été patients dans cette épreuve et qu'ils ont dit la vérité et ils en sont remis à Allah Azza wa Jal, ils avaient confiance en Allah, Allah Ta'ala leur a accordé une récompense qui est unique. Cette récompense, c'est quoi? C'est que leur histoire est citée dans le Coran. L'histoire de ces trois sahaba sont dans le Coran et jusqu'à la fin des temps, il y a des gens qui vont lire, qui vont répéter l'histoire de ces sahaba. Ça, c'est quelque chose qui est exceptionnel, qui a été accordé à ces trois sahaba. Et par rapport au comportement, les musulmans, durant, subhanallah, chaque fois qu'il y aura des gens qui vont lire ces versets ou ces hadiths, ils vont se rappeler de leur mujahada, leur sacrifice et de la récompense qu'Allah leur a accordé pour le fait d'avoir été véridique, d'avoir dit la vérité. Quand Ka'b radiallahu anhu, ça c'est une autre leçon à retenir, a reçu la bonne nouvelle, a dit au prophète d'Allah, je vais donner mes biens dans le chemin d'Allah. Et le prophète alayhi salat wa sallam dit, amsik alayka ba'adha malika fahuwa khayrun lak. Le prophète m'a dit que garde un peu de tes biens quand même, ne donne pas tout dans le chemin d'Allah, garde un peu, ce sera mieux pour toi. Qu'est-ce qu'on retient à travers cette parole? Que ce din est une religion du juste milieu. En même temps, le prophète alayhi salat wa salam demandait aux sahaba de donner dans le chemin d'Allah, mais en même temps, il demandait aux sahaba de rester réaliste. Et ça rejoint le verset du Coran, wa la tansa nasibaka min ad-dunya, que le mu'min, il pense à son akhirah sans pour autant oublier sa vie dans ce monde. D'accord? C'est-à-dire qu'il y avait un sahaba qui, avant de mourir, il voulait donner l'intégralité de ses biens dans le chemin d'Allah. Et puis le prophète a refusé. Il a dit, ben, je vous donne la moitié. Le prophète a refusé. Et à la fin, les négociations. Au contraire, il négocie pour donner là. C'est pas pour prendre. Il dit qu'au prophète d'Allah, je vous donne le tiers. Et là, le prophète a toléré. Il a dit, thuluth wa thuluthu kathir. Le tiers, mais le tiers, c'est déjà beaucoup. Et le prophète a expliqué à Sahaba que tu laisses ta descendance, yani, on va pas dire riche, mais que ta femme et tes enfants après ton décès, hein, il reste indépendant, autonome, il n'est pas besoin de tendre la main, c'est beaucoup mieux pour toi. Ça prouve le juste milieu de notre dîne. Un père de famille doit faire en sorte que sa femme et ses enfants ne manquent de rien, sans pour autant aller dans le luxe ou essayer d'avoir tout ce qui se trouve dans la société, mais faire en sorte que on n'ait pas besoin de tendre la main envers son prochain. C'est pour ça que le prophète insiste également que la meilleure subsistance qu'un homme peut avoir, c'est la subsistance qu'il va avoir par le biais de son travail. On l'a déjà expliqué dans d'autres circonstances qu'un mu'min qui se lève et qui travaille et qui obtient son rizq, sa subsistance, ça c'est déjà une bonne action. Ça c'est déjà une bonne action parce que ça c'est sa responsabilité que d'amener le rizq à sa maison pour sa femme et ses enfants par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également, parmi les leçons à retenir, ils disent que quand quelqu'un vit un événement heureux, le mu'min doit le féliciter. Le mu'min doit le féliciter. D'accord? Que ce soit quelque chose en rapport avec sa religion ou même en rapport avec son dunya. Par exemple, une personne a eu son bac, un jeune a eu son bac. De nos jours, on dit magé le bac. Ou ri. Mais de toute façon, le bac, un peu, bac c'est 3 lettres, un peu c'est 4 lettres. Ça ne représente plus rien. Mais quelqu'un a une bonne, une ouverture d'SAV, il a eu son bac, il a eu sa licence, il a eu son doctorat, je ne sais pas quoi, même si ce n'est pas en rapport avec le din, on doit le féliciter quand même. Ça, c'est la sunna par rapport à l'action des sahaba, ridwanullahi alayhim ajma'in. Quelqu'un a eu un enfant, on doit le féliciter. Là aussi, regardez, être positif. Pas qu'on dise que oui, tu as eu le bac de mon frère, le bac c'est dunia. Ça ne t'apporte pas rien. C'est pas avec le bac que tu vas entrer au paradis. Non, ce discours, cette parole, c'est une vérité, mais c'est pas munasib. C'est pas à ce moment. C'est-à-dire qu'on doit choisir le propos. On dit les propos qui sont en rapport avec les circonstances. On appelle ça l'intelligence du contexte. Et ça, le prophète alayhi salatu wasalam, les sahaba le maîtrisaient. Un moment où quelqu'un est heureux, il a eu son bac ou son enfant s'est marié ou etc., etc. Il faut être positif, il faut le féliciter. Masha'Allah, c'est Allah t'a accordé cette faveur. Allah t'accorde encore plus, t'accorde la réussite de ces deux mondes, etc. Allah remplit toujours ton cœur de joie, etc., etc. Que cet enfant soit la fraîcheur de tes yeux, etc. Ne pas se dire que non, il n'y a que le din. Si c'est dunia, je dis que non, ça c'est une perte de temps. T'as eu un travail, mais le travail, tu viendras plus la salat, alors dégage, c'est une perte de temps. Non. Être positif, dire toujours des paroles qui vont remplir le cœur de notre prochain de joie et de contentement et donner droit. Ça peut être un asbab, un motif pour inviter la personne vers le dîn. Par exemple, quelqu'un qui est éloigné de la religion et il a eu quelque chose, un travail, une promotion, on le félicite. Et puis on le rappelle, c'est le moment de faire passer un message que toutes les bonnes choses, c'est dans les mains d'Allah. Les mauvaises choses, c'est dans les mains d'Allah. Quand Allah accorde quelque chose de positif à quelqu'un, il faut qu'elle se montre reconnaissant. Quand on est reconnaissant, Allah accorde plus, etc., etc. Parfois, c'est des paroles qui peuvent toucher le cœur de cette personne. C'est-à-dire, utiliser toutes ces paroles et ces moments-là pour féliciter la personne, mais également pour faire passer un message de din à cette personne. Ah, je pense qu'on a dit à peu près ce qu'il fallait dire. Oui, un petit point également qu'on n'avait pas trop développé la dernière fois. Vous vous rappelez quand Ka'b ibn Malik, hein, entre guillemets, touchait le fond. Quand vraiment pour lui c'est catastrophique, qu'est-ce qui s'est passé? Ça c'est une autre épreuve ça. Une personne qui n'avait pas la foi apporte l'invitation que tel roi, dans telle contrée, dans tel pays, hein, il t'invite. On a entendu que tes compagnons t'ont abandonné, moi je t'invite, viens et tu seras honoré auprès de nous. Et Ka'b a compris que ça c'est l'invitation de Shaitan. Les kuffars, ceux qui n'ont pas la foi, ils essaient de trouver les moindres failles pour faire vaciller ceux qui ont la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dans leur cœur. Et ça, ça date pas de 2011, 2010, 2012. Ça date de l'époque des sahaba. Vous voyez cette histoire, ce roi entend qu'il y a eu tel problème, il essaie de trouver une solution pour ramener cette personne avec l'espoir qu'il va quitter sa religion et qu'il va vivre comme nous. Dans la mécréance, il va oublier l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le mu'min doit rester vigilant. On ne doit pas laisser les autres profiter de nos faiblesses. C'est pas parce que j'ai pas d'argent, j'ai pas de revenus, que quelqu'un me dit écoute, viens travailler, mais à condition que tu me dis, tu rases ta barbe. Tu arrêtes d'aller à la mosquée, et puis tes enfants envoient plus la médersa. Et là, je te donne le travail, là, pour l'intégration, au nom de l'intégration. Non! Jamais de la vie. On ne vend pas notre dîn pour une bouchée de pain. On garde notre izza, notre honneur, et notre honneur, c'est dans le dîn d'Allah. Allah Ta'ala a honoré les sahabes et qu'Allah nous a honoré par le dîn. Et quiconque cherche l'honneur par d'autres moyens n'aura jamais cet honneur. Au contraire, cette personne sera humiliée. Donc, jamais vendre son dîn pour le dunya. Donc, ce sahaba, il a compris que s'il était parti vers ce roi, il aurait été honoré. On aurait fait de lui un héros national. Mais à condition, en même temps, qu'il perde son iman, qu'il quitte le prophète, alayhi salatu wassalam, il n'est pas tombé dans son piège. Mais malheureusement, combien de jeunes frères et sœurs en islam tombe de ce piège. J'avais expliqué ça à mon travail il y a deux ou trois semaines. J'ai un ami qui est médecin, hein, qui est spécialiste, me dit que oui, il me dit le cas de certains jeunes d'un endroit particulier d'une île avoisinante, on ne dira pas qui. Mais je demande, ces gens-là, hein, comment est-ce qu'ils sont en médecine? Ils réussissent? Ils ont un bon niveau? Parce que ce n'est pas des diplômes français. Voilà, est-ce que dans les universités françaises, je ne sais pas, Montpellier, je ne sais pas où, est-ce que, alhamdoulilah, il y a une reconnaissance de niveau? Ils m'ont dit que oui, ils travaillent bien, ils réussissent. Il m'a dit, mais quand ils ont passé les deux années de prépa de médecine, là, ils retournent leur veste. Il m'a dit, ça veut dire quoi, ils retournent leur veste? Il m'a dit, ils renient leur dîn, leur religion complètement pour être comme les Français. Là, ils vont dans les soirées, ils boivent de l'alcool, ils mangent du haram, et ils veulent être français. Même s'il n'est pas, blanc, les yeux bleus, mais il fait en sorte de devenir un peu comme eux. D'accord? Il vend son dîn pour avoir le dunya. Et ça, c'est la plus grande des catastrophes. Alors, on va dire que lui, c'est, il fait partie de nous. Il est intégré. Lui, il est comme ça. Lui, il a tout compris. Parce qu'on va dans les soirées avec eux, on boit du champagne comme eux, on boit n'importe quoi, on sort. on sort avec les femmes, machin comme ça, et tout ce qui vient avec, uniquement pour montrer que nous, on est comme vous. Ne vous inquiétez pas, bon, mais il n'est pas bien blanc, mais mon cœur est blanc, enfin blanc dans l'autre sens, quoi, d'accord? Je suis comme vous dans le fond. Et c'est quoi le prix à payer? Le prix à payer, c'est de cacher que j'ai un nom. Mon prénom, c'est un prénom musulman. C'est de cacher que j'ai la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dans mon cœur et que je mange pas du haram, je mange du halal. On brade tout ça parce que si je fais comme eux, je vais être intégré, je vais être bien vu et quand je vais être diplômé et tout, on va me considérer comme un vrai français. C'est-à-dire, je vends mon dunya, mon din, je vends ma religion, ma foi, mon iman pour avoir les biens de ce monde. Et ça, c'est la pire des catastrophes. Qu'Allah nous protège et qu'Allah protège nos enfants. Et enfin, la conclusion, c'est regarder l'opposition qu'il y a entre les deux catégories de personnes. Entre ces sahabas, les trois sahabas, hein, qui ont dit la vérité et qu'Allah Ta'ala a certes éprouvé pendant 50 jours. Ils ont été éprouvés par Allah. Allah a demandé au prophète alayhi salam de ne plus leur adresser la parole. C'était une tarbiyah, une éducation pour eux. Et Ka'ab radiallahu anhu a dit que depuis ce jour, j'ai fait le serment jamais plus, jamais, il n'avait pas menti déjà. Il dit jamais jusqu'à ma mort, je vais dire une parole qui va à l'encontre de la vérité. Il a fait la promesse que jamais il va mentir de toute sa vie parce que là, il a failli tomber dans le piège de Shaitan, mais Allah l'a guidé et il a vu qu'en disant la vérité, comment Allah Ta'ala l'a élevé. Certes, Allah l'a éprouvé, mais en finalité, Allah Ta'ala lui a accordé une récompense magnifique. Le pardon d'Allah, l'agrément d'Allah et le fait que son histoire soit inscrite dans le Coran. Et à propos d'eux, Allah Ta'ala a révélé le verset Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Et le verset Laqad taba Allahu 'ala an-nabiyyi wal muhajirin wal ansari alladhina ittaba'uuhu fi sa'ati al-'usra min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum. Dans ce verset, Allah Ta'ala approuve que Allah a accordé son pardon au prophète, aux muhajirin et aux ansar, c'est-à-dire la population de Mecca venue à Medina, et les ansar, la population de Medina, ainsi que ceux ceux qui ont suivi le prophète alayhi salatu wassalam dans ces moments difficiles. Et le moment difficile, c'était quoi? C'était la bataille de Tabouk pour toutes les raisons qu'on a citées. Min ba'di ma kada yazir qulub fariq minhum. Alors que le cœur de certains parmi eux était sur le point de dévier. Certains sahaba étaient prêts à ne pas partir, tellement les circonstances étaient difficiles, mais Allah Ta'ala a donné la fermeté, la lumière de leur cœur, et ils sont restés fermes dans leur dîne. Et dans ce verset donc, Allah Ta'ala approuve qu'il a accordé son pardon à ces gens, et également à qui? À wa ala thalathati alladhina khulifu, à ces trois personnes qui sont restées à l'arrière. Donc Allah a accordé son pardon aux prophètes, aux muhajirin, aux ansar, ceux qui ont suivi le prophète dans ces moments difficiles, et également à ces trois personnes qui n'ont pas participé, qui sont restées à l'arrière. Jusqu'à ce qu'Allah explique que hatta idha daqat alayhim al-ardu ma rahama, c'est-à-dire que pour eux la vie était devenue impossible. C'était difficile. C'est comme si que la terre était devenue toute petite. Ils habitaient à Medina et Ka'ab il dit que hatta qultu la adri hal ana fil madinati aw ghayriha. Il ne savait plus où il habitait. Est-ce qu'il était toujours à Medina, dans la ville du prophète, ou non? C'est-à-dire que quand, et ça les ulama disent, on va pas trop entrer dans les détails, mais les ulama disent que, regardez, cette personne habite à Madina Munawwara. Le prophète alayhi salatu wasalam est présent. Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali, Ridwanullahi, Ali Majma'in. Mais malgré ça, cette personne ressent de la tristesse de son cœur. C'est-à-dire que ça prouve que la joie ou la tristesse du cœur, c'est dans les mains d'Allah. Quand Allah il veut mettre la joie dans le cœur d'une personne, même si les conditions ne sont pas réunies, la personne a des conditions difficiles, Allah met la joie de son cœur. Mais quand Allah décide d'éprouver quelqu'un, mettre de la tristesse dans son cœur, même s'il a tout ce qu'il veut dans ses mains, il est riche, il est célèbre, il a tout ce qu'il veut, si Allah décidait de mettre de la tristesse, de l'angoisse dans son cœur, cette personne éprouvera de la tristesse et cette personne éprouvera de l'angoisse tant qu'Allah Ta'ala aura décidé de la sorte. Hada. ثم تاب عليهم ليتوبوا ان الله هو التواب الرحيم. Le verset répète une deuxième fois qu'Allah Ta'ala leur a accordé son pardon. Et donc, ils ont eu la récompense et l'agrément d'Allah et leur histoire écrite dans le Coran. Trois choses. Et par opposition, ces hypocrites, ils ont cru que c'était terminé pour eux. Le prophète leur a accordé son pardon, mais Allah a révélé des versets, mais d'une dureté rare. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم. Allah Ta'ala prévient le prophète que ces gens-là, ils vont venir quand vous allez retourner de Tabouk, et ils vont demander des excuses, ils vont espérer que tu pardonnes, tu leur accordes son pardon. Tu leur accordes ton pardon. Et Allah Ta'ala ordonne au prophète, fa'aridu anhum, éloigne-toi d'eux. Allah Ta'ala ordonne au prophète de s'éloigner de ces gens-là. Et Allah Ta'ala les qualifie de innahum rijsun. Et rijs, il n'y a pas de mot plus horrible. Rijs, c'est une souillure. Quand on parle de rijs, excusez-moi, akramakumullah, lorsqu'on parle des excréments humains ou des choses impures, on appelle ça rijs. Rijs, c'est des impuretés, des souillures. Allah Ta'ala les a qualifiés de rijs, de souillures. Parce que c'était des hypocrites. Et pire encore, وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ. Allah Ta'ala a annoncé que quand ils vont mourir, ils iront directement en enfer. جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Parce que ce qu'ils ont fait, c'était vraiment quelque chose de mauvais par rapport à leurs agissements. Et puis le verset, bon, on va pas rentrer dans le code tafsir. À la fin, il a dit فَإِنْ تَرْضُوا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَوْا عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ. Allah Ta'ala s'adresse pardon, au prophète, dit que même si toi, tu leur accordes ton pardon, tu acceptes le repentir, tu crois à leurs histoires, mais sache qu'Allah n'accepte pas les gens qui ont le fisc, les pécheurs endurcis. Parce qu'Allah, lui, il savait ce qu'il y avait dans le cœur de ces gens. Ils ont menti au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en conclusion, les ulama disent également ce hadith qui est extrêmement important, qu'il faut savoir que quand on recherche le contentement d'Allah, automatiquement les gens vont éprouver de l'attachement, du muhabba pour vous. Quand quelqu'un vit en respectant les ordres d'Allah et que son objectif, contrairement à ce qu'on avait dit tout à l'heure, c'est l'histoire des étudiants qui font médecine et tout, hein, c'est des gens qui recherchent le contentement des gens en mettant de côté le contentement d'Allah. Il a dit que quand quelqu'un, au contraire, il recherche le contentement d'Allah, même s'il doit prendre des décisions, hein, il sait que les gens ne seront pas d'accord, mais son but c'est rechercher le contentement d'Allah, Allah fera en sorte que, en finalité, les gens vont éprouver de la sympathie pour lui. Car le prophète alayhi salatu wa sallam dit Inna Allaha azza wa jal, idha ahabba shakhsan nada Jibril. Lorsqu'Allah ta'ala aime quelqu'un, et quand est-ce qu'Allah aime quelqu'un? Quand quelqu'un l'obéit, fait de bonnes actions et que la personne s'éloigne de tout ce qui est haram. J'ai envie de faire telle chose, mais je mets la crainte d'Allah devant. Et donc je ne le fais pas. Et ça, Allah Ta'ala aime beaucoup. Quand quelqu'un délaisse quelque chose pour Allah, Allah lui accorde beaucoup de bonnes choses. Ça, c'est ce qu'Allah Ta'ala aime le plus. C'est bien de faire de bonnes actions. Mais quand on délaisse le plaisir, les passions pour Allah, les choses qui sont interdites pour Allah, uniquement pour Allah, ça fait plaisir à Allah. Et là, Allah Ta'ala aime la personne. Et quand Allah aime quelqu'un, Nada Jibril, Allah Ta'ala annonce à l'ange Gabriel, Jibril alayhi salam, Ya Jibril, Inni uhibbu fulalan fahibbu. Oh Jibril, j'aime cette personne, je t'ordonne de l'aimer. En citant son nom. Fayuhibbuhu Jibril. Et Jibril aime donc cette personne par ordre d'Allah. Et Jibril lance l'appel à tous les habitants des cieux, les anges. Et oh les anges, Allah Ta'ala aime cette personne. Fa'ahibbuhu. Vous aussi aimez cette personne. Fa'yuhibbuhu ahlus sama. Et tous les gens du ciel aiment cette personne. Je vous pose la question, qu'est-ce que vous préférez? Que Jibril, Allah vous aime. Jibril vous aime et tous les malaïkas des cieux vous aiment. Ou alors, et que les gens ne sont pas contents parce que vous êtes resté ferme de votre dîne, ou alors que les gens sont contents parce que vous faites tout comme eux et qu'Allah vous déteste. C'est la question qu'on doit se poser par rapport à nos choix et à nos orientations. Et quand les gens du ciel, des cieux également, aiment cette personne, et Allah Ta'ala fait en sorte que cette personne réussit ce qu'elle fait. Les gens l'acceptent et les gens éprouvent de la sympathie pour cette personne. Et ce deuxième hadith qui résume bien ça, le fait de rechercher toujours le contentement d'Allah avant de regarder ce que les gens vont penser. Manil tamasari d'Allahi bisakhatin nasi kafahullah. Le hadith est un peu long. Quand quelqu'un cherche le contentement d'Allah au détriment du contentement des gens, Allah Ta'ala envoie les ouvertures pour cette personne et Allah Ta'ala lui protège des méfaits des gens. Mais ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه واسخط عليه الناس. Tandis que quand quelqu'un il recherche le contentement des gens, il veut faire en sorte que les gens l'aiment, et pour cela il va aller à l'encontre des ordres d'Allah, il va provoquer la colère d'Allah, ben sachez que c'est l'effet contraire qui se produit. Allah ne l'aime pas, Allah est en colère avec lui, واسخط عليه الناس, et Allah Ta'ala va faire en sorte que les gens, Allah Ta'ala va faire que les gens éprouve du mécontentement, éprouve de la hantise, de l'inimitié pour cette personne. Au contraire, je recherche le contentement des gens, mais comme j'ai été à l'encontre des ordres d'Allah, Allah Ta'ala fait en sorte que les gens ne vont pas m'aimer, parce que c'est Allah, les cœurs des gens sont dans les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc mes chers frères, nous avons compris à travers cette histoire qui était un peu longue, qu'un mu'min doit toujours être véridique. toujours dire la vérité, même si à l'issue de cette vérité, il y a des petites conséquences, il y a des épreuves, mais sachez qu'en finalité, si on était véridique, Allah Azza wa Jalla nous accorde des récompenses. Inna as-sidqa yahdi ila al-birr. Être véridique, ça amène vers toutes les bonnes choses. Wa inna al-birra yahdi ila al-jannah. Et ça ouvre les portes du paradis, ça nous amène vers le paradis. Wa inna ar-rajula la yasduqu. Et quand un musulman dit toujours la vérité, Allah Ta'ala l'écrira parmi siddiq, yuktabu 'inda Allah siddiqa. Allah Ta'ala va l'inscrire parmi les véridiques. Et les véridiques, ça fait partie des hauts grades, ça, après les shahides. Alors que wa innal kadhiba yahdi ila al-fujur. Le mensonge, ça vous amène vers la perversité, vers le cumul des péchés. Et ça vous amène yahdi ila an-nar, qu'Allah nous protège, et ça nous amène vers l'enfer. Et wa innar rajula la yakdhibu hatta yuktaba 'inda Allahi kadhaba. Et quand un musulman ment, il ment, il cumule mensonge sur mensonge jusqu'à ce qu'Allah Ta'ala l'inscrit parmi les kadhab, parmi les grands menteurs. Parmi les grands menteurs, et qu'Allah nous protège. Hein, les anciens, ils disent, un proverbe ou autre, ils disent que pour un mensonge, pour protéger un mensonge, parfois il faut 100 mensonges. Quelqu'un a menti, et pour protéger, pour sauver son carré, pour pas que les gens le démasquent, parfois il est obligé de broder autour, mentir 10 fois, 15 fois pour protéger son mensonge. Alors qu'en disant la vérité, hein, on assume les conséquences, mais on sait qu'on a l'aide d'Allah Azza wa Jalla. Qu'Allah nous accepte, nous t'en fie de comprendre ces quelques paroles, de mettre en pratique, de propager à nos mères et à nos sœurs. Et avant de terminer, un petit conseil, hein, on a vu cette histoire de Ka'b ibn Malik Ghazwat Tabuk. Ça fait partie des histoires très importantes de notre dîn. Et ce genre d'histoire, on doit le raconter à nos enfants. Et que nos enfants dégagent les intérêts, les leçons de sagesse qu'on peut retenir de cette histoire pour le mettre en pratique. Ça, c'est extrêmement important. Et une petite expérience personnelle, il y a quelques jours à la madrasa, on est en vacances là, et donc on a projeté un film pour nos élèves, tranche d'âge de, on va dire, 10 ans, 14 ans, ou 10 à 15 ans, un film connu en français qui s'appelle Le Message. Très connu. Ça dure 3 heures. D'accord? Et vous ne pouvez pas imaginer l'effet que ce film a eu sur, subhanallah, ces personnes, ces enfants. Moi, j'ai observé quelle était leur réaction, leur comportement. Ils étaient enchantés parce que c'est des enfants qui ont déjà étudié la sira, la Ghazwat al-Badr, la Ghazwat de Uhud. Ils connaissent tout ça, mais le fait de le voir animé, ils voient Hazrat Bilal, radiallahu anhu, qui est frappé, qui est persécuté. Il dit que non, Ahad, il n'y a pas d'autre Dieu à part Allah. Ils comprennent, ça fait des déclics. Ils comprennent que pour rester dans la religion, il y a des gens qui sont morts pour rester musulmans. Et ils comprennent quelle est l'importance de ce La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. C'est un conseil que je peux donner aux parents. Hein, de nos jours, on envoie certes nos enfants à la madrasa, il y a des moyens qui sont mis à disposition, mais c'est limité. De notre côté, si on peut faire en sorte que de proposer à nos enfants d'autres sources pour apprendre la religion par le biais de films, de CD, de dessins animés, bien sûr, des choses qui restent dans le cadre islamique, c'est extrêmement profitable pour eux. Qu'Allah nous accepte.